Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la sainte sourate Qari'a. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 30 Tir 1401 du calendrier iranien, 21 juillet 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. Le nucléaire iranien. L'action décisive de Téhéran a forcé l'Occident à battre en retraite. Rencontre du ministre syrien des Affaires étrangères avec le président Raïsi à Téhéran. Frappe au Kurdistan. L'Irak accuse la Turquie et menace de riposter. L'Iran rappelle son ambassadeur en Suède. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le président Ibrahim Raïsi a rencontré le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Mekdad, à Téhéran. Au cours de cette rencontre, le président iranien a déclaré que l'armée syrienne devait reprendre le contrôle de toutes les frontières du pays et que la souveraineté nationale de la Syrie devait être respectée. Le président Raïsi a qualifié la Syrie de symbole de fermeté, de résistance et de lutte contre le terrorisme. Il a déclaré les inquiétudes concernant la présence des terroristes à Idlib exigent une volonté sérieuse de la part de tous les pays de combattre le terrorisme. Et je suis certain que cette lutte sera pacifique. Il a ajouté que les perspectives d'avenir de la Syrie sont prometteuses grâce à la patience et à la résistance de la nation syrienne. La visite de Faisal Mekdad fait suite à un sommet des présidents iraniens, russes et turcs à Téhéran pour discuter de la situation en Syrie dans le cadre de l'initiative d'Astana. Les présidents des trois pays ont souligné le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie tout en appelant au retrait de toutes les forces étrangères de ce pays. 9 civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués et 23 autres blessés mercredi dans le nord de l'Irak par des tirs d'artillerie imputés à Ankara, ont indiqué des responsables locaux. Les autorités irakiennes ont exigé de leurs voisins turcs le retrait d'Irak de toutes ses forces armées et ont menacé de riposter, tandis qu'Ankara rejette toute responsabilité. Le premier ministre irakien, Mustafa al-Kazemi, a adopté un ton inhabituellement ferme vis-à-vis de la Turquie, exigeant son retrait militaire du territoire irakien, des excuses officielles et a menacé Ankara de riposte. La Turquie, quant à elle, a nié la frappe que lui impute Bagdad. Sans le mentionner directement, Ankara a fait allusion à une éventuelle responsabilité du PKK, classé comme terroriste par le gouvernement turc et ses alliés occidentaux. Les victimes, au moins 3 femmes, 2 enfants et 3 hommes, étaient pour la plupart des vacanciers arabes du centre et du sud du pays, a indiqué un responsable local. La Turquie a frappé à 2 reprises le village aujourd'hui, a-t-il ajouté. Téhéran a rappelé mercredi 20 juillet son ambassadeur en Suède pour consultation, un signe de protestation après que la justice suédoise a condamné à perpétuité un ancien responsable d'une prison iranienne pour ce que l'Occident appelle son rôle dans des exécutions de masse des opposants en 1988. La République islamique d'Iran, en protestation au communiqué et verdict illégal prononcé en Suède à l'encontre de Hamid Nouri, a décidé de rappeler son ambassadeur en Suède pour consultation, indique un communiqué du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani. Hamid Nouri, un citoyen iranien arrêté à Stockholm en novembre 2019 pour de fausses accusations par l'organisation terroriste Mujahedine Khalq, OMK, a été condamné à la réclusion à perpétuité par un tribunal suédois. Le ministre iranien des Affaires étrangères a demandé la libération immédiate de Hamid Nouri. Il a noté que les relations de longue date entre les deux pays ne devraient pas être affectées par la propagande et les mesures sans fondement d'un groupe terroriste criminel. La Russie a repris l'envoi de gaz via son plus grand gazoduc vers l'Europe après une période de maintenance de 10 jours. Les livraisons de gaz russe à l'Allemagne devraient reprendre jeudi au niveau d'avant la maintenance, a affirmé mercredi l'opérateur allemand du réseau Gascat. Nous partons du principe que, conformément aux nominations actuelles, le transport de gaz via Nord Stream reprendra au niveau d'avant la maintenance, soit 40% de la capacité, a indiqué l'entreprise dans un communiqué en se basant sur les données transmises par ses clients. L'Europe est suspendue à la décision de Moscou concernant le redémarrage du pipeline qui approvisionne en gaz russe principalement l'Allemagne, mais aussi de nombreux États de l'Union européenne. Et enfin, le Mali a annoncé l'expulsion du porte-parole de la mission de l'ONU, la MINUSMA, le 20 juillet. Il est reproché à ce dernier d'avoir publié des informations inacceptables sur Twitter dans un contexte de friction entre Bamako et l'Organisation des Nations Unies. Bamako a ordonné le 20 juillet l'expulsion du porte-parole de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. Il est reproché à Olivier Salgado, de nationalité française, d'avoir posté sur le réseau social Twitter des informations inacceptables au lendemain de l'arrestation de 49 soldats ivoiriens à Bamako le 10 juillet. Il avait publié, en tant que porte-parole des Nations Unies au Mali depuis la création de la mission en 2013, des éléments de communication de la MINUSMA sur cette affaire des 49 soldats ivoiriens interpellés. le président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami, a déclaré que les contre-mesures de la République islamique d'Iran, suite à une tentative de pression sur Téhéran pour qu'il se soumette aux exigences occidentales, ont été totalement efficaces, obligeant les Européens et les États-Unis à changer de langage. Le mois dernier, la République islamique d'Iran a annoncé qu'il avait commencé à injecter de l'uranium gazeux dans ses centrifugeuses avancées et déconnecté certaines des caméras de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, surveillant ces sites en dehors de l'accord de garantie. L'annonce de la République islamique d'Iran est intervenue après que le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique a adopté une résolution proposée par les États-Unis et les trois partenaires européens de l'accord nucléaire de 2015, à savoir la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, qui accusaient la République islamique d'Iran de ne pas coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le déclencheur de la résolution a été un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique après que son directeur général, Raphaël Grossi, s'est rendu en Palestine occupée et a rencontré les autorités du régime sioniste. Le président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami, a déclaré mercredi que son organisation avait choisi ces mesures très intelligemment et avec précision, qui se sont révélées d'ailleurs tout à fait efficaces. Le langage utilisé par les pays occidentaux vis-à-vis de la République islamique d'Iran a changé et nous avons le dessus pour ainsi dire, a-t-il déclaré. Le résultat est essentiellement l'équilibre que notre pays a atteint. Et maintenant, l'Occident ne peut tout simplement pas égaler la force de la République islamique d'Iran dans divers domaines, a-t-il ajouté. La résolution anti-iranienne de l'Occident, au milieu des pourparlers de Vienne, pour relancer l'accord sur le nucléaire de 2015 et ramener les États-Unis au respect de l'accord qu'ils ont abandonné en 2018, a pris la République islamique d'Iran au dépourvu. Les Occidentaux pensaient qu'ils pouvaient mettre la République islamique d'Iran à genoux avec une pression maximale. Et pour atteindre cet objectif, ils avaient un éventail d'accusations et d'objections dans le but d'empêcher le progrès de la République islamique d'Iran, a déclaré Mohammad Eslami. La déconnexion par l'Iran des caméras de surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a déclaré le responsable, a totalement changé le discours et tout le tapage contre la République islamique d'Iran, puisque les caméras de l'agence, qu'ils pensaient être disponibles pour toujours en tant qu'outils, sont hors de leur portée. Mohammad Eslami a déclaré que le plan global d'action conjoint est essentiellement un accord pour résoudre les ambiguïtés sur les activités de l'industrie nucléaire. Mais les Occidentaux, qui n'ont pas rempli leurs obligations en vertu de l'accord, menacent la République islamique d'Iran. Téhéran, a-t-il dit, doit avancer avec autorité et force, quoi qu'il arrive, et atteindre ses objectifs avec une planification détaillée. Il convient de noter que la capacité de notre organisation à créer et à utiliser de nouvelles technologies est très élevée, a déclaré Eslami, ajoutant que plus l'Iran agit avec force, plus vite les obstacles seront supprimés. Les réalisations actuelles ont renforcé la position de la République islamique d'Iran et fourni une plateforme pour montrer que Téhéran n'a pas peur de l'Amérique, a-t-il souligné. Il a ajouté que le message clair de la République islamique d'Iran, c'est que Téhéran ne demande la permission à personne pour faire avancer ses objectifs et n'a besoin de personne.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat. Le 7e sommet du processus d'Astana s'est tenu mardi soir à Téhéran avec la participation des présidents iraniens, russes et turcs. Dans leur déclaration finale, les trois présidents ont souligné l'impératif du rétablissement de la stabilité en Syrie et la nécessité de la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Ils ont également souligné que le destin et l'avenir de la Syrie devraient être décidés par le peuple syrien lui-même. Avant ce sommet, les présidents turcs et russes ont été également reçus en audience par le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Khamenei, a souligné leur d'une rencontre avec le président russe, en effet, nécessité de faire face aux manœuvres provocatrices de l'OTAN dans la région. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ce sommet tripartite à Téhéran, mais aussi le discours important, les déclarations importantes, en effet, du leader de la révolution islamique lors des rencontres avec les présidents russes et turcs. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Ce mardi soir, le président russe a été reçu par le leader de la révolution islamique. Le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, a reçu en audience le président russe Vladimir Poutine ce mardi soir 19 juillet 2022. Le président Vladimir Poutine est arrivé mardi à Téhéran pour participer à un sommet tripartite avec les présidents iraniens et turcs, Ebrahim Raisi et Recep Tayyip Erdogan, sur le processus de paix en Syrie. Avant la rencontre de Poutine avec le leader de la révolution islamique, les présidents iraniens et russes ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales dans différents domaines, notamment l'énergie et le transit, ainsi que les échanges commerciaux. Le sommet d'Astana s'est tenu à Téhéran quelques jours après la tournée régionale du président américain Joe Biden dans la région. Cela représente largement le poids politique des acteurs régionaux et extra-régionaux dans la nouvelle architecture de sécurité du Moyen-Orient. Haaretz a récemment écrit dans un rapport que l'Iran et le leader de la révolution islamique détermineraient si le voyage de Biden dans la région avait été fructueux ou non. Lors du sommet de Jeddah, le président américain a d'une certaine façon promis aux dirigeants arabes du Conseil de coopération du Golfe Persique, CGRI, ainsi que de l'Égypte, de l'Irak et de la Jordanie que les États-Unis ne quitteraient pas la région en faveur de l'Iran, de la Chine et de la Russie. Mais presque aucun des chefs de pays de la région n'a cru à cette rhétorique du démocrate Biden. Trois points importants se trouvaient à l'ordre du jour du sommet d'Astana. Soutenir et protéger l'intégrité territoriale de la Syrie, combattre le terrorisme et soutenir l'établissement d'un cessez-le-feu dans ce pays. Ces dernières semaines, il y a des spéculations sur une éventuelle opération de la Turquie contre les Kurdes dans le nord de la Syrie, de même que la réduction de la présence militaire de la Russie en Syrie et l'augmentation du poids de l'axe de la résistance dans ce pays, ce qui a certes provoqué les inquiétudes des responsables israéliens à ce sujet, la montée de tensions sans précédent entre Moscou et Tel Aviv. Dans la situation actuelle, les intérêts communs entre Téhéran et Moscou incitent les deux parties à prendre des mesures pour la promotion exceptionnelle des relations politico-économiques et sécuritaires.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter tout de suite nos invités. Nous sommes en ligne depuis Bruxelles avec Luc Michel, géopoliticien, et depuis Damas avec Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique. Maître Develet, bonjour et merci infiniment d'être en ligne avec nous.
Oui, bonjour à vous et bonjour à M. Michel.
Maître Develet, alors quelques jours après la visite du président américain dans la région, une visite qui s'est soldée par un fiasco retentissant, alors le sommet tripartite sur le processus de paix en Syrie s'est tenu à Téhéran. Alors, quel est, dans le contexte actuel des évolutions dans la région, mais aussi des évolutions sur la scène internationale, le message et la portée, en effet, de ce sommet?
Tout d'abord, je dirais à titre préliminaire que les deux sommets, en fait, s'imbriquent l'un dans l'autre, surtout en matière de consensus sur le refus, que ce soit des uns à Jeddah ou des autres à Téhéran, d'envisager de quelque manière que ce soit l'avenir de la région au travers de déstabilisation et de conflits, et que tout doit passer par le dialogue. Les pays qui étaient présents au sommet du JCC à Jeddah l'ont bien laissé comprendre à Biden. L'administration américaine était complètement isolée. Je n'entrerai pas dans les questions portant sur la production de pétrole, mais en tout cas sur l'avenir de la région. Il a été opposé à un non sans équivoque à Joe Biden quant à tous ses projets d'OTAN arabe, de coalition anti-Iran. Tout ça, c'est clairement mort dans l'œuf. Et partant de là, la réunion tripartite d'hier, si je puis dire, agit comme un prolongement où maintenant il est question, dans un contexte qui est celui des accords d'Astana, le format Astana, de respecter plus que jamais les piliers fondamentaux de ce format, qui sont la désescalade, la négociation politique quant à trouver une solution dans la situation syrienne, et tout cela au travers du respect de la souveraineté territoriale et de la souveraineté syrienne, au sens, bien compris au sens large. Donc maintenant, il restera à voir si le président turc va commencer à, si je puis dire, pencher dans un sens plutôt que dans un autre, au lieu de continuer à jouer le rôle de funambule. Je pense que dans ses intérêts qui sont aussi économiques, et eu égard à son rapprochement avec certains États du Golfe et pas des moindres, lesquels, encore une fois, ne souhaitent pas du tout voir la région se déstabiliser, et lesquels eux-mêmes sont en train de recalibrer leur politique, non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau international, en privilégiant le développement de liens avec la Russie, qui prend de plus en plus un poids important dans les affaires du monde, mais aussi par rapport aux pourparlers qui ont pu avoir lieu à Bagdad, sous l'égide du premier ministre irakien, entre la République islamique d'Iran et l'Arabie saoudite. On a tous les éléments en place pour ce qui pourrait, et on peut l'espérer, donner lieu à une grande conférence qui permettrait de régler tous les dossiers d'une manière à ce que la région en bénéficie. Le point d'interrogation, c'est effectivement, et vous l'avez souligné en ouverture, cette volonté affichée des États-Unis de rester impliqués dans la région reste à savoir sous quelle forme.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous, s'il vous plaît, Maître Develay. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Nous avons visiblement un problème de liaison avec Monsieur Michel.
J'entends.
Ah, très bien. Monsieur Michel, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, monsieur. Bonjour, votre invité.
Ah, Maître Develay, depuis Damas, l'a rappelé, Monsieur Michel. Le sommet de Jeddah et celui de Téhéran, qui s'est tenu hier soir, alors s'impliquent l'un dans l'autre. D'autant plus que dans les deux sommets, alors, un grand nom a été apporté aux demandes, aux revendications du président américain. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, justement, selon de nombreux analystes, le sommet de Téhéran pourrait en effet aboutir à des résultats concrets, tant au niveau du rétablissement de la stabilité dans la région que de la restauration de la paix, de la stabilité en Syrie. Alors, si vous établissez, M. Michel, un parallèle entre ces deux sommets, quel serait votre constat? Et puis, concernant les répercussions et les conséquences de ce sommet, à quoi il faudrait s'attendre?
Tout d'abord, la presse française cette semaine a écrit en parlant de l'Ukraine que Poutine était le maître des horloges. Il est aussi le maître des horloges au Proche-Orient. C'est lui qui est l'arbitre de la géopolitique proche-orientale. Le voyage de Biden a été un échec et celui-ci, évidemment, ne maîtrise plus les grands dossiers de géopolitique. Je suis plus réservé sur les sommets. Sur le sommet actuel, tout simplement parce qu'il y a un flot de propagande turque qui se développe actuellement et qui prétendrait que la Turquie développerait de nouveaux objectifs de géopolitique. En réalité, la Turquie est toujours la deuxième armée de l'OTAN et elle exerce son activité sous le parapluie de celle-ci. Ce que la Turquie recherche en menant une nouvelle agression contre la Syrie, c'est évidemment, comme la presse d'État iranienne le précisait hier, c'est ouvrir une nouvelle fenêtre de tir à l'OTAN sous le nord de la Syrie et avancer à nouveau vers le démembrement du pays auquel les Occidentaux n'ont pas encore renoncé. Il y a clairement deux camps là-bas. Il y a d'un côté l'axe Téhéran-Moscou, qui est un axe d'entraide, et qui a cette fois-ci dépassé le stade des intérêts géopolitiques, mais qui est un axe fondé sur une amitié fondamentale. Et de l'autre côté, il y a une puissance qui est du côté occidental, comme elle le démontre sur tous les grands dossiers auxquels elle intervient, en particulier en Ukraine et en mer Noire. L'opportunisme de la propagande de Erdogan ne doit pas faire d'illusions. Hier, d'ailleurs, votre presse d'État dénonçait la charlatanerie et les terres d'Erdogan de Roumanie. Elle dénonce une géopolitique opportuniste qui est basée sur des coups de poker et qui ne fait nullement de la Turquie un partenaire de la Russie et de l'Iran.
Merci. Monsieur Michel, restez avec nous. Maître Develay, si vous voulez, revenons alors à cette rencontre entre le président russe et le leader de la révolution islamique. Bien sûr, ce partenariat stratégique Téhéran-Moscou, les intérêts communs des deux pays en Syrie, dans la région, au Caucase, dans la région d'Asie centrale, sur fond bien sûr de guerre en Ukraine, et les manœuvres provocatrices de l'OTAN, des manœuvres qui ont été dénoncées justement lors de cette rencontre par le leader de la révolution islamique. Alors, dans ce contexte, alors ce partenariat est stratégique, quel en sera l'impact sur l'avenir de la région d'Asie centrale, mais aussi sur l'avenir, en effet, d'une solidarité plus accrue face aux velléités expansionnistes de l'OTAN, Maître Develay?
Écoutez, ça, l'avenir nous le dira, mais enfin, de toute évidence, nous avons basculé qualitativement dans une nouvelle forme de relation renforcée. La relation bilatérale devient maintenant stratégique, ce qui veut dire que Les deux pays vont développer des synergies dans plusieurs régions, que ce soit en Asie occidentale, vous l'avez souligné également dans le Caucase, avec cette idée de, en toile de fond, participer de leur côté, comme il se doit, à cette édification de ces nouvelles routes de la soie, puisqu'il a été question dans les discussions bilatérales entre le leader de la République islamique d'Iran et le président Poutine, du développement de ce corridor nord-sud qui traversera la Russie, bien sûr, l'Azerbaïdjan, l'Iran, et trouvera son point d'ancrage jusqu'en Inde. Donc tout ça participe effectivement d'une projection à long terme. Vous avez de la chance, j'allais dire, et la Russie aussi quelque part, vous avez des systèmes politiques avec des dirigeants qui s'inscrivent dans la durée, et c'est comme ça qu'on doit gérer la géopolitique au sens large. C'est sur le temps long, et cela nécessite effectivement des décisions courageuses et audacieuses qui permettent d'entrevoir l'émergence d'alternative au pôle occidental, si je puis dire, finissant.
Merci encore, Maître Develay. Restez avec nous, s'il vous plaît. Monsieur Michel, alors donc, on assiste aujourd'hui à une nouvelle forme de relation entre Téhéran et Moscou, à l'émergence, en effet, d'alternatives, comme disait Maître Develay, qui dépassent, bien entendu, des alliances occidentales actuelles qui augurent de la naissance de nouvelles alliances au niveau international. Quelles seront les répercussions géopolitiques de cette nouvelle forme de partenariat stratégique dans la région, voire dans le monde, Monsieur Michel?
Écoutez, on est cette fois-ci dans un processus de direction vers un monde multipolaire, et Poutine, en engageant l'opération spéciale en Ukraine, il a dynamité le nouvel ordre mondial américain né à la fin de la guerre froide en 1991. Il est également en train de dynamiter ce qu'on appelle la globalisation made in USA. C'est un processus fondamental. Il y a un moteur au sein de cet axe, c'est la Russie qui est alliée à l'Iran. Justement, le poids des deux additionnés fait que la Russie aujourd'hui a un poids accru. À noter également que les axes de l'orientation géopolitique de l'axe Téhéran-Moscou s'inscrivent dans la perspective justement des axes de la géopolitique chinoise, de ce qu'on a appelé en particulier le projet des routes de la soie. C'est un élément fondamental, et l'Eurasie est en train de redevenir le centre du monde et non plus l'espace atlantique. C'est cela qu'il faut retenir, bien entendu. Les Occidentaux sont partout sur la défensive et l'Eurasie est en action, elle est à l'offensive pour faire basculer le monde dans une nouvelle ère géopolitique.
Merci encore. Maître Develay, sur le plan commercial et économique, tout récemment, le président Poutine a signé alors ce document de stratégie, en quelque sorte, de la Russie pour commercer en monnaie nationale avec la République islamique d'Iran. Étant donné qu'à l'heure actuelle, les deux pays sont soumis à des sanctions occidentales et américaines, comment, en effet, dans quelle mesure cette volonté de part et d'autre de faire des échanges en monnaie nationale pourrait contribuer, en effet, à sortir d'abord dans les relations entre l'Iran et la Russie, mais aussi la Chine, et dans un sens plus large, au niveau régional et international, pourrait contribuer à sortir de l'emprise du dollar?
Je dirais que c'est fondamental. Mais gardons à l'esprit, encore une fois, que la République islamique d'Iran a été, si je puis dire, affectée par les sanctions unilatérales américaines depuis plus de 40 ans. La Fédération de Russie elle-même subit les sanctions américaines depuis 2014. Autant des plans de contingence ont été mis en place de façon à être complètement autonome et de ne pas dépendre justement de quoi que ce soit qui pourrait dériver de ces régimes de sanctions. Ce qui fait que non seulement, comme soulignait Luc Michel, le résultat de ces sanctions ineffectives font que le centre de gravité du monde est maintenant en train de se déplacer vers l'Est, au cœur de l'Eurasie, hein, si on réfère au géopoliticien Mackinder. Et donc, c'est maintenant effectivement le centre-monde qui est en train de prendre contrôle de son destin et la thalassocratie anglo-saxonne qui, elle, est en train de se retrouver aux marges. Alors, est-ce que c'est inéluctable? C'est inéluctable seulement pour ceux qui ne veulent pas voir le sens de l'histoire. Il y a toujours possibilité pour la thalassocratie de jouer un rôle positif, pour peu que les acteurs les plus rationnels au sein de ces establishments puissent commencer à accepter la réalité pour ce qu'elle est et non pas s'accrocher à des lubies nostalgiques. Mais toujours est-il que la République islamique d'Iran et la Russie maintenant ont d'ores et déjà mis en place tous les mécanismes qui leur permettront d'augmenter le volume de leurs échanges, que la Chine a pris les mêmes dispositions, que tous les dispositifs ont aussi été mis en place pour contourner ces sanctions depuis maintenant un certain nombre d'années, qu'on a vu que rien n'empêchait la République islamique d'Iran, par exemple, d'exporter son pétrole au Venezuela, et que partant de là, si je puis dire, la dynamique est enclenchée et rien ne pourra l'arrêter, quoi qu'on puisse en dire.
Merci encore. Une toute dernière question à M. Michel. Monsieur Michel, dans cette nouvelle ère multipolaire qui s'avère prometteuse, alors cette volonté des deux pays, Téhéran et Moscou, en effet, de commercer en monnaie nationale, alors quel sera son impact sur la neutralisation des sanctions d'une part et d'autre part sur le processus, en effet, de dédollarisation du commerce international?
Justement, la clé du nouvel ordre économique mondial, c'est la dédollarisation du monde. Et la présence des Américains a dominé l'économie mondiale avec le dollar. Qu'est-ce que c'est la globalisation américaine? C'est en fait le schéma typique de l'économie coloniale. Il y a une économie centrale qui est celle du continent nord-américain. Il y a des économies périphériques qui s'orientent autour de celle-ci au profit de l'économie coloniale centrale. Justement, Poutine a parfaitement compris que la clé de voûte d'un nouvel ordre économique mondial, c'était de dédollariser le monde. L'histoire retiendra que, justement, ce sont les Américains eux-mêmes qui ont mis ce processus en marche avec leur politique des sanctions qui vise à la fois l'Iran, à la fois la Russie et à la fois leurs alliés. Il y a aujourd'hui un axe de pays sanctionnés qui s'opposent à la dollarisation du monde. C'est un effet boomerang étonnant que les Occidentaux n'attendaient absolument pas il y a 120 jours. Il y a d'ailleurs un phénomène qui intervient au sein du clan occidental. Ce sont les manœuvres de diplomatie secrète dans la coulisse d'ailleurs pour renoncer à des pans entiers de ces sanctions et rétablir le dialogue avec la Russie. C'est dans cela qu'il faut souligner le dialogue d'Astana et le sommet de Téhéran. Je n'ai pas d'illusion, comme je vous l'ai dit en tête de cette émission, sur le fait que la Turquie est à cheval de Troie occidentale. Mais en étant là, évidemment, elle contribue à fracturer le camp occidental lui-même. C'était d'ailleurs dès le début du processus d'Astana le but de Poutine et de Lavrov. Il faut retenir évidemment ces mouvements géopolitiques qui ont été préparés il y a longtemps, qui ne datent pas, comme les Occidentaux nous vont croire, d'il y a 130 jours au début de l'opération spéciale en Ukraine. Mais ce sont des phénomènes, par exemple, la guerre des hydrocarbures, du pétrole, du gaz, a commencé en septembre 2015 et la fracturation du bloc occidental a commencé en 2018 avec le processus d'Astana.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, Maître Arnaud de Velay, juriste international et analyste politique depuis Damas. Merci infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup.
À bientôt.
À très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Voix de l'éloquence est le plus célèbre recueil de sermons, lettres, exégèses et récits attribués à l'imam Ali béni soit-il. Il a été recueilli par Sharif Razi au Xe siècle. Connu pour son contenu éloquent, il est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature dans l'islam chiite, après le Coran et les hadiths prophétiques. Dans cette 11e édition dédiée à la voix de l'éloquence, nous vous présentons une maxime du successeur du prophète, premier imam des musulmans, l'imam Ali béni soit-il. L'individu le plus faible est celui qui est incapable de se faire des amis. Et l'individu encore plus faible est celui qui perd ses amis. Dans cette maxime de la voix de l'éloquence, le vénéré imam Ali béni soit-il, premier imam des chiites, insiste sur l'importance de l'amitié et la nécessité pour l'être humain de se faire des amis. L'amitié est une inclination réciproque entre plusieurs personnes n'appartenant pas à la même famille. Il arrive qu'une vraie amitié existe entre frères et sœurs, mais il ne nous semble pas exagéré de dire qu'elle est née non pas à cause de leur lien de sang. La relation d'amitié est aujourd'hui définie comme une sympathie durable entre deux ou plusieurs personnes n'ayant aucune attirance physique ou psychique. Elle naîtrait notamment de la découverte d'affinités ou de points communs. Plus les centres d'intérêt communs sont nombreux, plus l'amitié a de chances de devenir forte. Elle implique souvent un partage de valeurs morales communes. Une relation d'amitié peut prendre différentes formes. L'entraide, l'écoute réciproque, l'échange de conseils, le soutien, la critique bienveillante. L'admiration pour l'autre en passant par le partage de loisirs. Une ou un meilleur ami sert aussi à se confier et à avoir confiance. L'amitié, une valeur si connue et si précieuse aux yeux de tous, et particulièrement au sein de la communauté musulmane. L'amitié en islam est une question primordiale, d'autant plus qu'elle oriente la vie du musulman, et ce, dès son plus jeune âge. Les fréquentations et le bon choix des amis sont donc un rappel que l'on se doit à se faire à soi-même, mais également entre frères et sœurs. Le croyant est invité à s'entourer de personnes pieuses qui pourront le fortifier dans sa foi. Ainsi, en tant que musulman, le fait de se lier d'amitié avec un tel sous-entend des objectifs. Le premier objectif de l'amitié en islam est le fait de satisfaire notre âme. En effet, l'âme ressent ce besoin d'être en lien avec les autres. Ainsi, chaque âme sera plus ou moins attirée par certaines âmes et va donc tisser des liens avec elles sans que l'on prenne conscience de cela. Le second but de l'amitié en islam est de pouvoir confier à quelqu'un ce qui pèse lourd sur notre cœur. Bien que notre premier confident soit notre Seigneur, tant dans nos prières que dans nos invocations, le besoin de parler à quelqu'un se fait ressentir naturellement. La troisième visée de l'amitié en islam est de se connaître soi-même dans le but de s'améliorer. En effet, à travers le regard et les paroles de notre ami, nous pouvons nous connaître davantage et tenter de devenir meilleurs. L'ami est celui qui sera franc avec nous et qui nous permettra donc de corriger nos défauts, d'où l'importance de la sincérité, l'une des bases de l'amitié. Le quatrième objectif de l'amitié en islam est l'entraide dans les bonnes œuvres et la piété. Le fait de s'entraider dans la bienfaisance est en effet l'un des buts de l'amitié, car, par essence, nous aimons notre ami pour Dieu. L'accomplissement de bonnes œuvres dans le but de satisfaire notre Seigneur apparaît donc comme un but évident de cette relation. Choisir de bons amis, certes, mais comment y parvenir? Comment faire le tri afin d'être préservé? Le premier critère pour choisir ses amis en islam est bien évidemment l'attachement à la religion. Plus le musulman côtoiera des personnes attachées à la religion, plus il se rapprochera de son Créateur et inversement. Le second critère de choix d'amis en islam est annexé au premier, à savoir le bon comportement. En effet, plus l'homme fréquentera des personnes dotées de bonnes mœurs, plus il sera amené à faire le bien autour de lui et à bien se comporter avec autrui. Les amis au bon comportement ne pourront qu'être de bons conseils et poussés vers le bien. Deux autres critères pour le choix d'amitié en islam sont l'honnêteté ainsi que le penchant pour les mêmes centres d'intérêt. Choisir un ami qui soit sincère, qui ne fasse pas partie des menteurs et qui se montre franc en toutes circonstances est indispensable. Cela fera de lui un meilleur conseiller et entraînera une plus grande facilité à se confier à l'autre, car celui-ci fait preuve d'une totale transparence. Enfin, partager les mêmes centres d'intérêt est également important pour choisir ses amis en islam, afin de pouvoir partager des moments ensemble. L'amitié sera ainsi consolidée par le biais d'activités partagées. Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.